C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Je commence ce matin par une espèce de survol de nouvelles économiques qui vous concerne. D'abord, il y a eu des données de Statistique Canada qui ont été publiées hier et qui montrent grosso modo cette espèce de ralentissement économique au Canada, perte de la vitesse de croissance, manque de productivité, manque d'investissement de la part des entreprises, tout l'impact également de l'immigration hors contrôle, la crise du logement. Quand vous mettez tous ces facteurs-là ensemble, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que le Canada n'a pas une économie actuellement en très bonne santé. Et ça se répercute au quotidien dans des secteurs qui vous influencent. Par exemple, les taux d'intérêt. On apprend ce matin que les patrons de la Banque du Canada étaient divisés sur la pertinence ou non de commencer à faire baisser les taux d'intérêt. On sait que le taux directeur est stable. À quel moment les consommateurs vont pouvoir avoir ce répit, ça reste à déterminer, mais il y avait quand même un certain nombre de tensions. Deuxièmement, cette taxe sur le gain en capital qui a été annoncée dans le budget fédéral et que Québec a décidé d'appliquer également ici. Je comprends que l'idée, c'est de taxer les riches, là, mais dans les faits, on retrouve des propriétaires qui sont pas des milliardaires puis qui sont pas des multimillionnaires. Des gens, puis Pierre-Yves l'a très bien décrit dans sa chronique à plusieurs reprises, là, des gens qui ont investi dans un ce qu'on appelle un plex avec quelques logements et qui, là, commencent à trouver ça stressant, de dire « c'est mon fonds de pension ». Et on a décidé pour tous les gains, là, il y a une exemption de 250 000. Puis après ça, bon, ben, l'imposition passe de 50 à 66,7 %. C'est 16 % d'augmentation. Et à Toronto, puis on me dit qu'à Montréal aussi, vous l'avez peut-être vu, on découvre qu'il y a des ventes un peu sous pression qui se font d'ici la date du 25 juin. C'est à ce moment-là que va entrer en vigueur la disposition du budget. Et moi, j'ai vu des annonces de courtiers immobiliers en disant « c'est à vendre d'ici le 25 juin, profitez ». Donc, des gens qui veulent pas payer un montant supplémentaire de gains en capital. Et c'est également vrai du côté de l'Ontario, de Toronto. Et puisqu'on parle de logement, il y a une photo qui veut tout dire ce matin. C'est dans le Journal de Montréal. C'est un 4,5 sur le plateau Mont-Royal qui est annoncé à 1 650 $ par mois. Et là, dimanche, il y avait des gens qui faisaient la queue pour essayer de, un, visiter et de pouvoir obtenir ce logement. Donc, c'est vrai que quand vous regardez le marché actuellement, 1 150 $ par mois, c'est peut-être pas trop cher, mais les gens courent et cherchent désespérément des logements. Je vais vous parler de la DPJ ce matin, puis après qu'on parlera du transport en commun. D'abord, le ministre Lionel Carman, qui ne donne pas d'entrevue, s'est dit alarmé, bouleversé, secoué en apprenant qu'à Val-Bélair, dans la région de Québec, 70 enfants ont été envoyés dans une famille d'accueil alors qu'une petite fille avait signalé les comportements déplacés, les agressions du père de la famille d'accueil, du fils de la famille d'accueil puis du beau-frère. On ne l'a pas cru. La mère l'a pas cru. Et on est obligé de dire que beaucoup de mères québécoises préfèrent et ont préféré fermer les yeux pour sauver la famille, pour sauver le couple, des peurs de représailles. Oubliez les raisons, là. C'est malheureusement un cas classique, sans parler de l'entourage. Donc, on a envoyé, c'était à l'enquête de la presse, et ça a pris une autre dénonciation, 15 ans plus tard, en gros, pour que là, on commence à dire, oups, il y a un problème. Et le gars plaidait coupable, il y a d'autres procédures. Ça, on vous a expliqué ça hier matin. Katia Gagnon nous explique ce matin l'histoire d'une petite fille de 12 ans qui a été agressée sexuellement par un éducateur dans une ressource qui était en contrat avec la DPJ du CIUS du Centre-Sud. Petite fille de 12 ans. Je résume sommairement son histoire, mais après ça, vous allez comprendre comment c'est grave ce qui est arrivé. Donc, c'est un enfant qui arrive au Canada en 2018. Elle a 9 ans et elle est avec son père. Sa mère est demeurée dans son pays d'origine. Le père la maltraite physiquement. il y a des signalements qui sont faits en 2020. On place la petite dans une famille d'accueil, puis après ça, en foyer de groupe. Et en 2021, elle aboutit dans un foyer de groupe qui est géré, là, qui a un contrat avec le CIUS. Il y a 9 places, puis accueille des enfants de 6 à 12 ans. Il y a eu toutes sortes de problèmes dans cette ressource. Ça a été fermé en 2020 pour des raisons de nature sexuelle. Il y avait des échanges entre les gens qui se trouvaient à l'intérieur de cette ressource. Puis les enfants ont été replacés, le personnel a été congédié. Puis après ça, on a rouvert 6 mois plus tard la ressource en question. Puis là, on devait former les gens. Tout ça pour vous dire que cet enfant-là a été abusé et que l'intervenant avait une proximité malsaine avec cet enfant-là. Et la proximité, les gens s'en excusaient en disant « oui, mais c'est peut-être une approche », mais en même temps, il y en a qui ont trouvé que c'était déplacé. Pour faire une histoire courte, l'éducateur a abusé de l'enfant. Cet enfant-là, écoutez bien ça, là, moi j'en, et ça illustre ce qui se passe malheureusement à l'intérieur de la DPJ. L'enfant parle. L'éducatrice qui reçoit la dénonciation demande à la petite qui a 12 ans, je répète, la petite a 12 ans, si elle était consentante. Une éducatrice qui demande ça, là. Oui, mais était-elle consentante à des attouchements? Je veux dire, ça ne tient pas la route. Cette intervenante fait pas de signalement. Il se passe rien, alors que normalement, ça doit être fait. Il y a eu un jugement dans ce dossier-là, le juge Brion, qui dit qu'il est inconcevable que les pleurs et les craintes de l'enfant n'aient pas permis à l'éducatrice de signaler sans délai les faits rapportés à la directrice. La preuve démontre le peu d'empathie de cette éducatrice à l'égard d'un enfant d'à peine 12 ans. Et ça a pris un an avant que l'enfant obtienne de l'aide psychologique. Un autre cas. Et ce qu'on se rend compte, et on le disait hier, c'est que les structures mises en place ne permettent pas de protéger les droits des enfants. La Commission des droits de la personne a pas mal mis ça de côté. La directrice nationale, on ne sait pas ce qu'elle fait. Puis on attend la nomination d'un commissaire. Entre-temps, j'ai reçu je ne sais plus combien de messages d'employés de la DPJ qui sont en détresse. Évidemment, je ne peux pas les identifier, je ne peux pas donner de référence géographique, mais ce n'est pas grave. Ça veut tout dire sur ce qui se passe à l'intérieur de la DPJ. Puis vous allez comprendre pourquoi. Je vais prendre 2 exemples ce matin. C'est quelqu'un qui travaille dans les centres jeunesse depuis 20 ans et qui a vu la situation se détériorer au fil des années. Les agences qui obtiennent des contrats, incapacité de développer des liens avec les jeunes. De plus, les éducateurs qualifiés ne veulent plus s'investir auprès de nos élèves. Par choix, plusieurs refusent de prendre des postes et décident de demeurer à temps partiel pour ne pas avoir une plus grande charge de travail. En restant précaires, ils n'ont pas à avoir de jeunes pour lesquels il faut faire des suivis. Ils n'ont pas à développer de liens avec 2-3. Des jeunes intervenants, qui au départ sont de bonne foi, veulent s'investir et qui se font décourager parce qu'on veut vider des listes d'attente, on veut fermer des dossiers, et c'est ça la pression qui est exercée sur la machine. Et je rappelle qu'il n'y a pas, malheureusement, de contrepoids à l'intérieur. Une autre qui est intervenante au sein d'une équipe de crise. La situation est décourageante. On déborde tellement que les signalements, par exemple, effectués pour des jeunes de 12 ans qui ne fréquentent plus l'école, on parlait cette semaine d'absentéisme. C'est même pas suffisant pour être retenu. Même si quelqu'un appelle la DPJ pour dire « il y a un enfant de 12 ans, là, il est inscrit puis il vient pas à l'école », c'est pas, on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Qu'est-ce que ça cache, l'absence d'un enfant de 12 ans à l'école? Donc, c'est un exemple. Puis on dit, ben, s'il est à la maison, ça veut dire qu'il est en sécurité. La petite de 5 ans qui est morte à Grimby était à la maison. Ça veut pas dire qu'elle était nécessairement en sécurité. Donc, ce sont de multiples exemples. Je pourrais là vous en sortir 20 comme ça. Et je sens, en résumé, la bonne foi de la plupart des intervenants. Oui, il y en a qui sont tout croches, là. Mais la plupart, puis même beaucoup de jeunes qui ont envie de faire ça, puis qui se sentent abandonnés, puis qui vont lâcher le morceau, puis qui vont aller faire autre chose. Et surtout, que le blabla ministériel, que les grandes structures, puis les grandes annonces, puis la belle philosophie, terrain, là, ça se détériore. En un mot, la DPJ craque. Et c'est ça qui est en train de se passer. Et le ministre a beau dire qu'il est outré, scandalisé, ça change pas, malheureusement, la réalité sur le terrain. Drôle de journée pour le transport en commun. D'abord, on a appris hier que le REM ne sera pas au rendez-vous, les nouvelles stations pour 2024. C'était ça l'idée de départ. Et que pour des raisons de complications sur les chantiers, de délais, ben, c'est repoussé à 2025. Vous comprendrez que les gens qui misaient sur le REM, on peut penser à l'ouest de l'île, on peut penser à deux montagnes, se faire dire que ça va prendre un an de plus, là, même si on va faire des essais dans quelques jours, il y a une certaine frustration. Remarquez que c'est toujours mieux d'être plus efficace, plus sécuritaire, plus performant, puis de pas précipiter les choses. On est d'accord avec ça. Mais il y a des enjeux. Et l'autre chose, il y a des gens de l'interne qui me racontent, là, on l'annonce aujourd'hui, mais semble-t-il que depuis le mois de novembre dernier, on sait pertinemment qu'on sera incapable de livrer à la date prévue. Novembre 2023. Qu'il y a des enjeux importants, notamment qui concernent le tunnel, ça on le sait au niveau de la construction, mais de l'installation de la fibre optique qui doit servir évidemment pour les communications et pour opérer le réseau. Et plus on va greffer de station, plus, évidemment, ça va demander une capacité. Et ça fait partie des enjeux. Puis j'en profite pour dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement dévoués dans la construction du REM. Ils veulent que ça marche. Puis là, je fais attention parce qu'ils n'ont pas le droit de parler, mais je veux quand même le dire. Nous avons des équipes qui travaillent actuellement sur les différents chantiers du REM. C'est intense. Les échéanciers sont serrés. Quelqu'un quitte le projet après quelques mois parce qu'il trouve que c'est trop intense. Et il y a un manque flagrant de main-d'œuvre spécialisée. Et donc, quand officiellement là, le gouvernement dit qu'il n'était pas au courant, là, on est dans la bullshit un petit peu, là, parce que depuis le mois de novembre, on était au courant de ces problèmes. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième, quand vous regardez certains chiffres, on découvre que le REM gruge les revenus de sociétés de transport comme celle de la Rive-Sud de Montréal. Les gens qui prennent le REM se déplaçaient autrement avant. L'idée de départ, c'était que ce soit complémentaire. Or, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas. Du côté de la Rive-Sud, c'est 66 % de la clientèle avant la pandémie. Donc, c'est beaucoup plus bas, premièrement. Troisièmement, hier, la ministre Geneviève Guilbeault y est allée d'une déclaration pour le moins assommante. Là. Elle dit que le transport collectif, c'est pas une mission de l'État. Les routes, oui, mais pas le transport collectif. Le tramway de Québec, c'est une patente dont on a hérité, puis on n'est pas intéressé par ça. Et faites vos ménages, nettoyez la place, ramassez de la fougère, dit-elle, et puis réglez vos problèmes. Là, c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant de la ministre des Transports, alors qu'on nous explique que transport collectif, il faut avoir une vision globale sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on veut gérer ça ville par ville au Québec? Et savez-vous quoi? Ça démontre exactement ce que j'appelle le cancer gouvernemental. C'est-à-dire, face à un problème important, on y va de déclaration, mais il ne se passe rien. Elle a partiellement raison sur un point. Il y a tellement de structures de transport en commun. Des fois, tu dis qu'il y a plus de structures que d'autobus. Il y a plus de gens impliqués dans, supposément, l'aménagement, la préparation. Et moi, je comprends la frustration des dirigeants de sociétés de transport qui passent bien du temps à se pogner avec les différents intervenants. Encore cette semaine, le maire de Laval, concernant la hausse du droit d'immatriculation, la taxe là, qu'on veut faire passer au-dessus de 200 $, lui-même reconnaît qu'il y a des tables et des tables de gens qui jasent puis qui discutent. Mais serait attendu à ce que la ministre, qui là a deux priorités en tête, un tableau de bord puis une agence, là c'est standard au gouvernement, nous explique c'est quoi sa vision du transport collectif puis comment on va faire le ménage d'instructures. On est écœuré de payer bien des affaires, mais en même temps, Il y a un défi là qui est important. Et hier, elle a encore dit que c'est aux villes puis aux sociétés de transport de s'assurer puis de faire un certain ménage. L'autre chose, le fameux pont de l'île d'Orléans, au-dessus de 2 milliards, pas loin de 3 même, là, il y a un sondage qui nous montre que 48% des Québécois pensent qu'un péage, ce serait une bonne chose. C'est sûr que quand t'es pas concerné par le péage, tu trouves régulièrement que c'est une bonne affaire. Pas certain que les gens dans le coin vont être d'accord avec ça. Et puis, quand on parle de métro, Le Devoir nous dit ce matin, ça découle de l'étude des crédits, qu'il y a 9 stations du métro de Montréal qui sont en mauvais état. On sait pas lesquelles, et c'est sans compter également d'autres infrastructures qui laissent à désirer. Ça comprend des postes de ventilation mécanique, des postes de redressement, des voies en électricité. On a des infrastructures assez vieillissantes dans la grande région de Montréal. Je vais vous parler du stade olympique, 40 millions pour décontaminer. La ministre Caroline Proulx sera avec nous, puis on va parler du bilan Airbnb. Québec a l'air satisfait. La ville de Montréal prétend ne pas être équipée pour faire les bonnes opérations. Et puis évidemment, il faut absolument parler de la guerre entre Israël et le Hamas, des opérations militaires encore une fois importantes. On aurait trouvé des charniers tout près des hôpitaux à Gaza. Mais en terminant, j'attire votre attention sur les mouvements dans les universités un peu partout dans le monde. C'est vrai à Paris, même Montréal, on a vu ça à l'UQAM, on a vu ça à Concordia, on a vu ça à McGill. Donc pro-Palestine, anti-guerre. Et peut-être que l'exemple le plus fort, c'est évidemment l'Université Columbia, où il y a eu des camps qui ont été aménagés, espèce de campement là, de manifestants qui veulent pas partir. Mais c'est un peu la même tendance qu'on retrouve. Il y a eu des dizaines d'arrestations, des affrontements avec la police. Et pour beaucoup, ça rappelle le mouvement anti-guerre du Vietnam à la fin des années 60. Il y a eu cette séquence d'événements, l'assassinat du président Kennedy, l'assassinat de Martin Luther King, de Robert Kennedy, et l'information qui émanait de la situation au Vietnam. Et c'était, à l'époque, une tendance, je dirais, de protestation extrêmement violente dans certains cas sur les campus universitaires. Et on est en train de vivre un peu la même chose. Et il y a comme deux enjeux très clairs sur la question. Donc, les investissements des universités dans des entreprises qui font affaire avec des compagnies d'armement pour Israël. Puis en même temps, cette espèce de dénonciation de cette guerre. Et parmi les manifestants, c'est vrai qu'on retrouve des Juifs qui sont contre le gouvernement de Netanyahou, qui protestent, mais on retrouve aussi beaucoup des étudiants juifs sur ces campus universitaires qui se sentent pas très bien protégés par l'université, puis ostracisés. C'est des gens, qui j'en ai vu beaucoup témoigner, qui disent « on va à nos cours et on est comme ciblés, puis on a une pression, puis on n'a pas cette liberté de pouvoir étudier en paix ». Et de toute évidence, c'est pas un mouvement qui va s'essouffler.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand.
On va parler de tourisme et d'hébergement parce que ce matin, Québec dévoile un premier bilan concernant les modifications à la loi. Ça fait 7 mois qu'on a changé les obligations concernant l'hébergement touristique, ce qu'on appelle communément les plateformes comme Airbnb. La ministre du Tourisme est avec nous, Caroline Proulx. Madame Proulx, bonjour.
Salut, Monsieur Arcand.
Vous dites grosso modo que vous êtes satisfaite de l'impact qui a un taux de conformité autour de 90%. Moi, j'ai vu d'autres chiffres qui vont pas dans ce sens-là.
Ouais, j'étais contente de pouvoir avoir ramassé ces données-là au fil des 7 derniers mois, puis pouvoir répondre un peu à l'article de la semaine passée du côté de la presse. La première chose, quand on a travaillé sur le projet de loi en décembre 2022, la première question que j'ai posée aux équipes, c'est « c'est-tu applicable? » Moi, ça me tente pas d'écrire une loi, de produire une loi avec les affaires juridiques, avec le ministère, si c'est pas applicable. Fait que, donc, on a déposé ce projet de loi-là. On arrive 7 mois plus tard où on est passé à un taux de conformité qui était grosso modo à peu près à 58% au mois d'août dernier. Et là, on est à 90%. Puis, c'est la démonstration que les amendes, tant Airbnb que les autres plateformes transactionnelles ou les gens qui veulent mettre leur résidence principal sur des plateformes, ont compris qu'il y avait des amendes hyper sévères. Puis si tu veux jouer dans le carré de sable de Airbnb, faire la location court terme, voici ce à quoi tu dois te soumettre. Puis le taux de conformité est quand même très élevé.
Est-ce que des amendes qui ont été imposées?
Ouais, il y a pas mal d'amendes qui ont été imposées. Ben, voulez-vous le portrait du Québec ou de Montréal?
Moi, Montréal m'intéresse en particulier. Je veux savoir combien d'amendes ont été imposées à Montréal.
Ouais, je me doutais que Montréal vous intéressait. Il y a eu donc au 31 mars, c'est toujours Revenu Québec évidemment là qui est là. Il y a eu 707 inspections non conformes. Il y en a eu 105 qui a donné un total de condamnations à 363. Total d'amende, 1,6 million. Pour l'ensemble du Québec, on est à peu près à 5 millions et ça ne cesse d'augmenter là, ces amendes-là où on trouve les gens là, qui essaient de contourner la loi.
Je reviens à l'article de la presse qui dit grosso modo que si y a des règlements qui ont changé, c'est quand même assez facile de fourrer le système. Là. Des arrondissements qui interdisent, par exemple, ce type de location comme Airbnb, puis là, on joue avec les adresses, on joue avec des fausses informations, des numéros d'enregistrement. Bref, que ça semble encore assez facile de déjouer le système.
Ben, il reste un petit 10% de petits crottés, là, monsieur Arcan, là. Ils sont encore là. J'ai d'autres règlements que je peux déposer pour venir resserrer les normes en encadrant donc l'hébergement courte durée. Il va toujours avoir ce 10%-là. Tu sais, on regarde la Sûreté du Québec, ils pincent encore des gens qui n'ont pas leur ceinture de sécurité. Fait que, tu sais, il n'y a pas de loi qui est parfaite. Moi, jusqu'à présent, j'étais assez satisfaite. Revenu Québec est sur le terrain, parle beaucoup avec l'escouade de la ville de Montréal pour s'assurer que les règles soient respectées là.
Je suis pas sûr parce que je fais entendre Robert Baudry du comité exécutif de la ville qui était avec nous la semaine dernière justement pour parler de ça.
Là, c'est comment on est capable d'y aller en action concertée. C'est-à-dire, nous avec les outils, puis là on a commencé à le faire. On a transféré la donnée à Québec. Après, c'est pour la résidence principale. Là, ça, c'est à Québec. Là. Je veux dire, nous, par les taxes foncières, on n'a pas cette information-là de s'assurer vraiment que c'est la résidence principale de la personne. Donc, c'est facile de frauder au niveau de Montréal.
Puis la mairesse de Montréal, Mme Plante, dit, je la cite, « L'enjeu, c'est qu'on n'est pas capable de faire respecter les règles. C'est la maison des fous. » Parce que cette location touristique est encore problématique en ville. Là, c'est ce que la ville dit. Là. Vous dites le contraire?
Ben moi, ce que je vous dis, c'est que le 28 mars dernier, Revenu Québec, qui a une relation très étroite avec la ville de Montréal, a rencontré Marie-Claude Parent. C'est qui Marie-Claude Parent? C'est la coordonnatrice de l'escouade contre l'hébergement touristique illégal. Et moi, lundi, j'étais avec le maire de l'arrondissement, j'étais avec le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. J'ai dit, je vais sortir des données. Revenu Québec n'a pas la liste des résidences principales au Québec. Ils tiennent pas ça. Deux, la ville de Montréal puis Revenu Québec se parlent régulièrement. Puis Monsieur Arcan, à tous les mois, au premier du mois, Revenu Québec envoie à la ville de Montréal toute la liste des enregistrements d'hébergement touristique sur son territoire. En plus, Revenu Québec a acheminé la liste de tous les constats d'infraction qui ont été donc délivrés sur le territoire de la ville de Montréal à Madame Parent. Ça, c'est le 28 mars. Madame Parent dit, je vais faire le tri, je vais acheminer les informations aux arrondissements de la ville de Montréal. Mardi, Luc Rabouin avait toujours pas cette information-là. Ça descend pas, là, visiblement. Ce que j'ai dit à Luc Rabouin, là, on s'enverra pas en dessous de l'autobus un l'autre, là. C'est important de travailler ensemble, Luc. Puis là, il y a des informations que je t'envoie. Descends-les, ces informations-là, à ton escouade.
C'est pas l'illustration que c'est compliqué pour rien, là. Ça peut pas être une escouade qui check ça, les locations touristiques, point à la ligne, avec tous les pouvoirs. Pourquoi c'est quasiment une escouade mixte?
Ouais, parce que moi, j'ai une loi qui est au niveau du gouvernement du Québec. Toutes les villes au Québec peuvent ajouter des séries de règlements qui conviennent à leur territoire ou à leur arrondissement, M. Arcan. Mais là, c'est le pouvoir des villes, c'est eux autres qui doivent appliquer leur règlement sur leur territoire. Tu sais, les villes.
OK, fait que vous me dites Montréal a les pouvoirs. Si Montréal fait pas sa job, c'est de sa faute. On va résumer ça de même.
C'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que les règlements que la ville de Montréal, les arrondissements décident d'ajouter, ça devient sa job. C'est pas la mienne, là. Moi, j'ai une loi sur l'hébergement touristique. Si la ville de Montréal décide d'avoir des règlements dans ses arrondissements, C'est sa job de les appliquer, M. Arcan, là. Chacun son territoire.
OK. Deuxième dossier, celui des travaux de nettoyage là, au Stade olympique. La facture, c'est 40 millions?
Ouais. Je vais vous avouer que Michel Labrecque puis moi, là, les équipes, on était un peu sonnés là, quand le feu a été déclenché. Là, il y a toujours une enquête du SPVM qui est en cours, une bombe incendiaire. Le problème, c'est qu'elle a été lancée au pied de la tour. Puis c'est là l'alimentation en air, entre autres, pour la tour, puis entre autres pour l'Institut national du sport. Fait qu'on a à peu près 68 000 mètres carrés à désintoxiquer. On doit s'assurer que tout est décontaminé. Donc, pour la sécurité, évidemment, des employés, des athlètes, des locataires. Fait que c'est là où on a annoncé le 4 à 6 mois de fermeture pour faire les travaux correctement. Dans tous les conduits d'aération qui mènent aux 17 étages de la tour, c'est une méchante grosse job.
Je comprends que c'est une grosse job, là, mais il n'y a pas moyen de faire ça plus vite.
Mais c'est complexe, la décontamination, là, M. Arcan, là. C'est un panache de fumée toxique qui est rentré dans les conduits principaux du stand, qui a contaminé 17 étages, qui a fait exploser des fenêtres de l'Institut national du sport. Au-dessus de la piscine olympique, c'est concave. Il y a de la toxicité qui s'est accumulée là. On doit décontaminer. C'est un travail qui est long, qui est très, très long.
On va vous croire, mais c'est quand même là, particulier. C'est une bombette incendiaire. Là. Je comprends qu'il y a de la fumée et tout ça, là, mais c'est pas comme
si... Beaucoup de fumée. Beaucoup, beaucoup de fumée, là. Le problème, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de fumée qui est toxique.
OK. L'autre question que je vais vous poser ce matin, le montant de 30 $ imposé par les îles de la Madeleine aux visiteurs qui vont se rendre là, dans les prochaines saisons, vous êtes pour ou contre ça?
Ouais, ben Percé le fait l'année passée, il y avait eu quand même pas mal de contestations de la part des propriétaires d'entreprises de toute nature du côté de Gaspé. C'est des initiatives qui sont mises de l'avant de la part des municipalités pour aller chercher des revenus additionnels. Maintenant, moi, je me retire de ça. Je regarde les municipalités aller. Encore une fois, là,
hey, vous êtes la ministre du tourisme, là. C'est parce que c'est un geste quand même important, là, les îles de la Madeleine qui disent 30 $ pour rentrer.
Je comprends. Mais, tu sais, je reviens à ce que je vous disais, M. Arcan. Les municipalités décident d'avoir des réglementations qu'elles décident d'appliquer. C'est leur job. J'ai pas à intervenir là-dedans. Je l'observe, par exemple. Je suis pas complètement désintéressé. Je vais vous le dire. Je regarde du coin de l'œil ce qui se fait du côté de Percé, ce qui se fait du côté des îles de la Madeleine. Puis on le voit un peu partout dans le monde, hein. C'est pas un cas unique au Québec. On a vu certaines villes à travers le monde imposer, donc, des taxes comme celle-là. Moi, je vais... Écoutez, regardez, demeurez en retrait, puis je verrai là, ce que la population puis les municipalités décident au final.
Vous n'avez pas l'intention de l'interdire?
Non, pas moi. C'est pas, c'est les villes, là. J'interviendrai pas avec les villes.
Je comprends, là, mais vous êtes responsable de l'industrie touristique.
Ouais.
Certains disent que c'est un mauvais signal de mettre une taxe pour avoir accès à des parties du territoire québécois. D'autres disent c'est normal, les îles, saison touristique courte, il faut aller chercher de l'argent. Puis c'est pas vrai que la municipalité de 12 000 personnes est capable de faire face à toutes les factures. Vous dites, je regarde, mais vous envoyez pas un message pour dire, arrêtez-moi ça.
Non, mais c'est pas ma job de dire arrêtez ou arrêtez pas. Tu sais, le cas des îles de la Madeleine, vous les avez visités aussi souvent que moi. C'est sûr qu'il y a un problème de gestion des déchets, hein. Tout ça doit être transporté par bateau. On alimente les îles de la Madeleine également par bateau. Fait que je vais regarder les discussions, je les regarde, je les consulte, ce qui se passe du côté des îles de la Madeleine. Puis je vais suivre ça en temps continu. Là.
OK. Il arrive quoi maintenant avec le groupe de religieux d'extrême droite là, que vous avez foutu à la porte du palais des congrès à Québec, là, puis qui, je pense, poursuit le gouvernement? On en est où dans ça, là?
Ouais, ben ça avance lentement. C'est toujours judiciarisé. Fait que malheureusement, Monsieur Arcan, je peux pas partager plus d'informations avec vous dès que je pourrai. Soyez assurés que je vais cogner à votre porte.
Mais c'est toujours en cours. Là, ce que je veux dire, c'est qu'il y a pas de règlement, il y a pas d'entente, il y a rien. Là, on procède.
On procède pour le moment. Les choses avancent lentement mais sûrement.
Ok, merci d'être venu ce matin. Bonne journée.
Salut.
Caroline Proulx est la ministre du Tourisme.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
On commence avec le REM ce matin parce qu'on a appris que finalement, ce qui était prévu pour 2024 est reporté à 2025. Donc, on peut penser à l'ouest de l'île, tout le secteur de Deux-Montagnes. Beaucoup de clients déçus qui attendaient ça avec impatience. La Caisse de dépôt dit « on n'a pas le choix ». Il y a des délais, il y a des retards et on veut s'assurer que tout fonctionne normalement. Le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec est avec nous, Charles Aymon. Monsieur Aymon, bonjour.
Bonjour.
D'abord, pourquoi ces délais? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas capable de livrer à la date prévue?
En fait, c'est pas qu'il y a un enjeu, c'est juste la capacité maximale auquel on fait face actuellement, M. Arcand. Si on prend ça point par point, tous les travaux de génie civil, de construction d'infrastructures sont terminés. Sur les antennes et dans le tunnel. Dans le tunnel, ce qui reste à faire, c'est installer des systèmes. J'appellerais ça là, l'électricité, le câblage, la plomberie, la ventilation. Donc, on a un plan très clair, puis ça fait des mois, là, 8, 9 mois, 10 mois que les équipes travaillent 24-7. Mais je vous donne juste un exemple pour illustrer, M. Arcand, parce que des fois, c'est difficile à imaginer un chantier de cette ampleur-là. On a 600 km de câbles à installer. Donc, deux fois Québec-Montréal ou un peu plus. Puis un tunnel, malheureusement, c'est un tunnel de vieux de 100 ans qu'on a là, qu'on veut retaper pour les 100 prochaines années. Ça va être quelque chose d'extraordinaire pour les Montréalais pour se déplacer. Mais c'est un endroit qui est étroit, c'est un endroit qui est exigu, qui est profond, mais le pire, il y a un seul accès. Et donc, ça prend toute une séquence, une synchronisation, rentrer à la machinerie lourde, ressortir, rentrer les équipes. Donc, le problème, c'est pas qu'on a un puzzle devant nous qu'on peut pas résoudre, c'est que même à 24-7, il faut laisser le temps autant aux équipes de se faire. Donc, ce qu'on a fait pour faire ça, c'est qu'on a changé notre séquence, puis il reste juste le tunnel à régler de ce côté-là. Alors, on peut commencer les tests tout de suite sur les antennes, ce qu'on n'aurait pas pu faire autrement. Puis quand le tunnel va être réglé, on pourra faire les tests et intégrer tout ça.
Est-ce que c'est vrai que vous le savez depuis novembre dernier?
Ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je sais depuis un bout de temps que c'est un échéancier très ambitieux, là. Et on n'est pas du genre à baisser les bras, tout de suite, on n'essayera pas. C'était serré, mais on a changé nos méthodes de travail, on prend les meilleures technologies, on a changé la séquence. Écoutez, c'est une logistique là extraordinaire à déployer. À un moment donné, on a nos partenaires à avertir, puis on s'est dit, bon, mais tout simplement, on a essayé de rattraper le plus possible. Mais dernièrement, on s'est dit, là, faut parler à nos partenaires puis leur dire simplement que l'échéancier, les tests peuvent pas commencer dans le tunnel fin 2024, mais on est capable de le faire dans le reste de la portion de le reste de l'antenne. Donc oui, c'est un échéancier ambitieux, puis c'est la même chose, mais on se pousse parce que c'est la façon d'arriver à faire le plus grand réseau au monde du genre en si peu de temps. Même si je sais que les usagers attendent depuis un bout de temps.
Oui. Ce qu'on me dit à l'interne, là, il y a des gens qui m'écrivent, vous comprendrez, puis qui me disent, un, on le sait depuis novembre 2023. Deux, il y a un problème de main-d'œuvre spécialisée. Trois, tout ce qui concerne la fibre optique, le tunnel, c'est central. On revoit les échéanciers aux deux semaines. Donc, ça veut dire que probablement l'automne passé, on savait là, qu'on serait pas capable de livrer selon les dates prévues.
Ben, écoutez, je vais me fier à ce que moi, je vous dis dans le sens que je suis celui avec mes équipes, avec M. Arbeau, qui fixons ces échéanciers-là. Et c'est toujours ambitieux. Écoutez, de faire le REM à cette vitesse-là, là, j'ai pas vu d'autres projets dans ce monde se faire aussi rapidement, malgré la pandémie. Vous savez, le retard qu'on a à peu près quand on le combine, là, c'est un 2 ans. On doit faire ça en 2023, ça va être 2025. Ben, il y a un an pour le tunnel, puis un an pour la pandémie. Si vous voulez résumer l'histoire du REM depuis la première pelletée de terre, M. Arcand. Mais c'est vrai que c'est exigeant. Mais tant qu'on a fait des choses, on se dit, il y a une possibilité, le délai va être différent. Puis aussi, tant que les tests sont pas faits, vous savez, les tests font foi de tout. Et ça peut varier énormément. Donc, c'est pour ça que c'est facile de dire, on le savait dès 2023. Mais je pourrais vous dire depuis très longtemps que chaque échéancier qu'on a, on maintient la pression sur le consortium et les fournisseurs. Parce que si on se donne toujours du lousse, ben, on va finir, ben, plus tard. Alors, moi, pour moi, oui, c'est des échéanciers extrêmement ambitieux. Vous avez raison. Mais on se pousse au maximum.
OK. Vous visez quel moment en 2025?
Je peux pas vous dire, malheureusement, puis vous savez, je réponds à vos questions très, très clairement actuellement, mais je peux pas vous mettre une date précise avec un trimestre ou un mois. Parce que, comme je viens de dire, c'est les tests, une fois qu'on ouvre et qu'on commence ça, qui vont vraiment faire foi tout. Puis là, on parle d'informatique, M. Arcand. Donc, c'est pas comme dire je vais câbler, ça prend tant d'heures, il y a tant d'équipes, ça prend tant de jours. T'essaies d'intégrer ça, c'est un logiciel, le train se promène sur les rails, il apprend à le reconnaître, il apprend le système. Puis écoutez, là, pour vous donner une idée, c'est beaucoup plus complexe que l'antenne Rive-Sud. Là, il faut réintégrer l'ensemble du réseau. C'est quelque chose qui s'est pratiquement jamais fait à cette échelle-là dans le monde. Il faut qu'on le réalise aussi parce qu'on est en train de se doter d'un réseau d'infrastructures pour les 100 prochaines années. Alors, vous savez, ça me fend le cœur, c'est sûr, quand je dis, ben, finalement, ça va être en 2025, mais je peux vous dire qu'on pousse la machine, puis on est confiant parce qu'on s'améliore au fur et à mesure. Et quand on regarde le projet du REM, il a peut-être pris 2 ans de plus qu'on pourrait dire, juste pour donner un chiffron, 30% par rapport à quand ça a commencé en 2018, un projet de 6 ans, c'est en 8 ans pour l'instant. Mais les autres projets dans le monde, c'est 60, 70, 80% de temps de plus. Alors, peu importe où on va atterrir, ce que je veux dire en termes de coûts ou d'échéancier, c'est extrêmement rapide pour un projet de cette ampleur-là.
Je regarde les autres antennes là, du REM à venir, là, et beaucoup de gens me posent la question, l'aéroport de Montréal, centre-ville, c'est pour quand?
Ben nous, le travail est fait, c'est au niveau de l'aéroport. Il y a une seule station qu'on a pas fait sur les 30 quelques du réseau, c'est celle d'aéroport. C'est ADM qui en est responsable. Alors, pour l'instant, l'échéancier qu'on a de leur part, c'est celui qui a été communiqué par ADM. Mais pour la suite, je peux pas. Nous, notre travail est fait. On attend qu'ils complètent leur station. Puis pour nous, c'est important que ce soit fait le plus tôt possible parce que c'est quand même, faut pas l'oublier, la genèse de ce projet-là aussi, le réseau qui connectait à l'aéroport. Donc, je me fie à ADM qui vont prendre les mesures nécessaires parce que c'est un lien qui est important.
Ils vous ont donné quelle date là jusqu'à maintenant?
Ben, la dernière date que j'ai, c'est celle qui a été communiquée publiquement sur 2027. Alors, à ce moment-là, il faut voir où est-ce que ça va aller avec eux. Et puis, c'est eux qui gèrent les travaux de la station. C'est la seule station dont on s'occupe pas. Mais nous, tout est connecté, tout est approché.
Je voyais des chiffres ce matin concernant la clientèle du REM, ce tronçon de la Rive-Sud vers le centre-ville de Montréal et l'inverse. Ouais. Là. C'est comme un transfert. C'est-à-dire que les gens, avant le REM, prenaient le transport collectif. C'est comme si le REM avait... je dirais, accaparer des montants qui ne sont plus entre les mains des sociétés de transport.
Au niveau des revenus, vous parlez?
Oui, c'est que les gens, par exemple, prenaient avant l'autobus, là, ils prennent le REM, et là, les sociétés de transport perdent des revenus qui vont au REM.
Écoutez, vous amenez à un point qui est très important, parce que si on veut promouvoir le transport collectif, tout le monde est d'accord, il faut rajouter de l'offre. Si on rajoute de l'offre, puis qu'on tire la couverture, puis que, permettez-moi l'expression en anglais, c'est un « zero-sum game », comme on dit, on va faire du surplace. Vraiment, tout le monde est impacté, nous, les sociétés de transport, sur la pandémie. On veut se faire à croire, les gens se déplacent plus de la même façon. Bon, mais une fois que ça est dit, le REM et les autobus, ça sert des choses différentes. L'image que je prends, c'est que le REM est comme une artère qu'on se donne. Les autobus, c'est des veines qui vont à côté ou qui vont plus loin. Ces deux systèmes-là doivent se nourrir. Le REM a besoin d'autobus qui nourrissent le système, puis on a besoin, quand on dépose les gens, qu'il y ait d'autres options, le métro ou autre. Donc, c'est pas à moi que ça revient le financement du transport en commun, mais ce que je dis, c'est que c'est un réseau tout intégré. Et si on rajoute constamment de l'offre, si on rajoutait une ligne de métro, on dirait pas, ben là, on cannibalise le reste. Il va falloir qu'on regarde ça de façon importante, parce que sinon... Ça va faire un statu quo qui n'est pas ce qu'on désire collectivement, je pense.
Bien, c'est ça, parce que là, un citoyen qui regarde ça se dit parfait. Le REM, bon, il y aura une structure éventuellement quelque part dans l'Est, là, on ne sait pas trop ça va être quoi. Mm-hmm. Une station de métro va s'ajouter. Vous dites, faut pas se cannibaliser. Je comprends tout ça. Mais c'est, en même temps, on garde, c'est comme si les partis se parlent pas trop, puis chacun tire sa couverte, là, son bord de couverte.
Ben, je peux comprendre. Puis écoutez, quand on regarde au niveau du REM, faut comprendre ce que chacune des composantes tente d'accomplir dans le réseau. Et c'est très important que l'un et l'autre se nourrissent. Vous savez, nous, je prends l'exemple juste de la caisse, on assume tout le risque d'achalandage. Alors, on peut pas se retrouver avec un système comme ça qui est une grosse artère pour amener les gens plus loin, plus vite, plus souvent, pour que les gens se retrouvent à être moins capables d'avoir de connexion d'autobus. On voit bien que c'est pas logique. Donc, il va falloir l'intégrer, ce réseau-là, puis le regarder dans son ensemble. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point-là, parce que sinon, on peut pas faire subir à l'usager une conséquence de la hausse de l'offre. C'est contre-intuitif. Là.
OK. Dites-moi, est-ce que l'opération du REM sur la Rive-Sud, je parle strictement à l'opération, là, est-ce que c'est profitable? Est-ce que ça dégage des profits?
Ben nous, je peux vous dire, de notre point de vue, qui était la cible qu'on avait toujours donnée pour les Québécois, nos déposants, ça va exactement dans la fourchette de rendement qu'on a toujours parlé, qui est 8 à 9 %. Donc, les projections jusqu'à présent, vous savez, on a à peu près 25 000 usagers par jour, M. Arcand, en moyenne. ça fait juste 8 mois. Le réseau est pas tout non plus complet, donc ce qu'on voit sur l'antenne de la Rive-Sud, c'est pas représentatif du potentiel du système. Puis on a des pointes maintenant qu'on commence à voir à 35 000, 36 000. Donc, ce qu'on voit comme progression est exactement en ligne avec ce qu'on anticipait. Évidemment, faut voir qu'il y a quand même une baisse d'achalandage avec la pandémie. Ça a bougé aussi comment les gens se promènent dans la semaine. Puis, on a eu d'autres éléments dans nos projections qui font en sorte qu'on est exactement pour nous où est-ce qu'on anticipait qu'on serait aujourd'hui. Je suis très content de ce point de vue-là.
OK. Et du côté de Québec, on aura toujours une proposition au mois de juin?
Au mois de juin, oui. On est travaillé en ce sens-là, puis j'ai aucune inquiétude qu'on va livrer le rapport tel que promis en juin, qui est quand même, je tiens à le dire, un travail colossal en 6 mois, parce qu'on a révisé des dizaines de milliers d'études. On a fait aussi nos propres études. On regarde toutes les options possibles. Puis notre rapport, M. Arcan, il va être toutes les recommandations qu'on va faire vont être documentées. Ils vont être déposés publiquement. Elles vont être présentées par nous publiquement. Puis toutes les options étudiées, même celles qu'on recommande pas que celles qu'on recommande, on va s'expliquer pour que les gens n'y aillent pas. Oh, ils ont-tu pensé à ça ou ils ont-tu pensé à ça?
OK. En terminant, il y a des pertes d'emplois à la caisse, là. Exactement, il y a combien d'employés qui sont mis à pied?
Dans la phase d'intégration de nos filiales immobilières, on parle de gens qui sont... Et c'est des employés qui étaient soit chez Otera, une filiale immobilière au niveau de la dette, soit chez Evanouille au niveau de la filiale immobilière Équité, mais aussi des employés de la caisse. On parle pour l'instant de 164 employés.
Est-ce que ça pourrait être plus que ça?
Il va en avoir d'autres parce qu'écoutez, pour l'instant, on a fait dans les 4 premiers mois une première vague pour ce qu'on a visé notre organisation cible. La deuxième phase dans laquelle on rentre maintenant à partir de mai, sans être trop technique, M. Arcan, mais c'est au niveau des systèmes informatiques, intégrer tout ça. Et évidemment, une fois que ça va être fait, c'est un peu plus long, mais c'est certain qu'il va en avoir d'autres à ce moment-là, puis on les annoncera en temps et lieu sur les 18 prochains mois.
Merci beaucoup, M. Aymon. Bonne journée.
Merci à vous.
Au revoir. Charles Aymon est le président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et de placement du Québec.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Nous revenons sur le dossier de la DPJ. Hier, on apprenait donc que pendant des années, des enfants ont été envoyés dans une famille d'accueil. Le père est un agresseur d'enfants, le fils a agressé et le beau-frère également. Donc, on parle de 70 enfants qui ont transité. Deux jeunes filles ont expliqué avoir été abusées. Une première qui n'a pas été entendue. L'autre l'a été. Et ça a permis finalement de découvrir ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Maître Valérie Assouline est avec nous, avocate en droit de la jeunesse, qui représente les deux jeunes filles en question. Maître Assouline, bonjour.
Bonjour.
On comprend que la première plaignante, la première victime l'a dit à la mère, l'a dit à des intervenantes et on ne l'a pas écouté.
On l'a pas écouté, on l'a pas cru et on l'a traité un peu comme une délinquante. On l'a placée en centre jeunesse et dès qu'elle parlait, ben, elle se faisait isolée finalement. C'est ce qu'elle a vécu.
Est-ce qu'il y a eu des enquêtes quand même? Est-ce qu'on a tenté de valider si ce qu'elle disait était vrai ou on a comme... fait la sourde oreille.
On a vraiment fait la sourde oreille. En 2004, elle n'a pas été entendue et ça a été fermé là. Et il n'y a jamais eu une enquête appropriée comme il aurait dû y en avoir. Donc,
elle s'est retrouvée en centre jeunesse.
Elle s'est retrouvée punie, hein, finalement, pour avoir dénoncé. On l'a placée en centre jeunesse.
Quel a été l'impact pour elle de ses gestes, puis l'impact à long terme, là, pendant toutes ces années?
Oh, l'impact, c'est de vivre avec cette ce fait-là que d'avoir voulu dénoncer, on l'a placé, que personne l'a entendu pendant autant d'années, et ensuite d'avoir vu que il y a eu d'autres jeunes filles qui ont subi le même sort. C'est un impact terrible qui la suit à chaque jour.
Parlez-moi de la deuxième, celle qui a été entendue, c'est 2021, sauf erreur.
2021, elle a été entendue. Et c'est là où on a découvert, et la ressource a été fermée, puis on a découvert ce qui a été découvert.
Qu'est-ce qu'elle a vécu, puis comment est-ce qu'elle a raconté ça, puis pourquoi elle, on l'a cru?
Ben, on l'a cru déjà, vous savez, elle est tombée même enceinte de son agresseur, et elle a vécu des viols, des agressions sexuelles. À partir de l'âge de 9 ans, elle a commencé à avoir des abus sexuels, cette jeune-là. C'est ça l'affecte à chaque instant, bien évidemment.
Mais elle, on l'a cru, elle est enceinte, vous allez me dire.
Mais elle, on l'a cru.
On l'a cru. Et il y a déjà des procès qui sont engagés. Le père de la famille d'accueil a déjà été coupable. Ça,
oui.
C'est réglé.
Et ça, c'est en novembre 2023.
Oui.
Alors, quand j'entends M. Carman nous dire qu'il est surpris, il est dévasté, là.
Moi, j'ai beaucoup de questions à vous poser un peu sur la chronologie des événements. D'abord, oui. 2004. Mm-hmm. Il y a cette plaignante qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue. La exact. DPJ continue d'envoyer des enfants, 60, 70, 70, dans cette famille d'accueil. Est-ce qu'il y a eu, à votre connaissance, des vérifications? Est-ce qu'il y a eu des visites dans cette famille d'accueil? Est-ce qu'on a tenté de savoir ce qui se passait à l'intérieur?
Il y a toujours des visites. Parce que lorsqu'il y a 70 jeunes qui circulent dans cette famille d'accueil-là, ben c'est certain que les intervenants vont à chaque mois voir les jeunes qui y sont.
Il
n'y
a aucun document, est-ce qu'il y a une preuve qui existe? Personne n'a rien vu pendant toutes ces visites-là.
En fait, après 5 ans, les documents n'existent plus. Donc, c'est ça l'enjeu. Mais il y a eu des témoignages, il y a eu des témoins qui ont été, qui ont entendu la première jeune faire ces verbalisations.
Okay. Je vous pose ma question autrement. Est-ce que la DPJ ou est-ce que des intervenants intervenantes de la DPJ savaient ce qui se passait dans cette famille d'accueil-là?
Absolument. Ma cliente a dénoncé à des intervenantes de la DPJ lorsqu'ils sont venus la chercher à l'école et vider son casier et l'humilier devant tout le monde. Elle a dénoncé ce qu'elle vivait et on ne l'a pas entendue. Et elle a dénoncé à des intervenantes de la DPJ.
Est-ce qu'il y a des rapports de d'autres intervenantes ou des visites faites par d'autres intervenantes qui documentent que d'autres personnes ont été, d'autres enfants ont été abusés?
Eh bien, il y a eu tout le procès aux criminels qui confirme que d'autres personnes ont été témoins de ces verbalisations-là et que ça a été, en effet...
Mais ce que je veux vous dire, Maître Assouline, moi, ce qui m'assomme dans ça, là,
oui.
C'est que des adultes qui vont visiter une famille d'accueil, mm-hmm. tordus, visiblement, et que... On a continué d'envoyer des enfants, même s'il y avait des témoignages qui laissaient sous-entendre qu'il y avait au moins matière à enquêter sur cette famille-là.
Exactement. Et c'est pour ça qu'il y a matière à poursuite. Matière à poursuite aussi parce que ça a perduré et il y a eu 70 jeunes qui sont passés par là.
Mais pourquoi on garde une famille d'accueil comme ça? Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas d'autres puis on ne sait pas quoi faire? Ou...
Parce qu'on ferme les yeux. Parce que c'est pas. Parce qu'on ne croit pas. On croit pas la jeune parce que c'est une culture où on croit peut-être pas les jeunes. Et c'est ça aussi qu'il faut changer. Et c'est toujours d'actualité. Hein. Il y a encore des dossiers où on croit pas les jeunes qui dénoncent des abus sexuels. C'est comme si la famille d'accueil, ben c'est béni, là, c'est la famille d'accueil. Il y a des bonnes familles d'accueil, mais c'est comme les familles. Il y a aussi des familles d'accueil qui ont des problèmes.
Puis là, je veux pas tomber dans, comme on dit, l'anecdote ou le cas par cas, là.
Non.
Mais ce qui est assez assommant, moi, j'ai des familles d'accueil ou qui veulent être familles d'accueil, qui se font emmerder par le système de façon spectaculaire. Il vous manque 3 pouces dans une chambre. L'éclairage est pas suffisant. Puis vous serez pas famille d'accueil. Puis là, vous avez des familles d'accueil qui maltraitent les enfants puis qu'ils reçoivent la visite puis ça a pas l'air à poser un grand problème.
Ça, c'est ce qui est déplorable. En fait, c'est sur qui on tombe. Est-ce qu'on tombe sur un intervenant qui est bienveillant? Mais là, c'est 16 ans que ça a duré. Là.
Ben c'est ça, c'est pas un
16
cas,
ans?
Là.
Pendant 16 ans, on va nous dire qu'on n'a rien vu, qu'il n'y a rien eu, alors que l'enquête de la presse dévoile qu'il y a eu au moins 8 agresseurs. C'est vraiment une histoire où un éclairage doit être fait.
Vous dites, dans le cas du jugement, novembre dernier.
Oui.
Quand le ministre se dit bouleversé, assommé, vous le croyez pas pantoute, là?
Pas du tout. Ça a fait la une de tous les journaux qu'il y a un père d'accueil qui a été incarcéré pendant 10 ans parce qu'il a abusé sexuellement de 2 jeunes. Une qui était en 2004 et l'autre en 2021. Okay? Donc il y a 16 ans d'écart. J'ai demandé à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qu'une enquête soit faite parce que je voulais que tous les jeunes qui sont passés par là soient rencontrés. Et on m'assure que oui, depuis la médiatisation de cette affaire, ça va être fait.
Ça va être fait, c'est pas fait encore.
Mon Dieu, ma jeune cliente reçoit une lettre. Elle n'a rien sollicité. Elle reçoit une lettre en décembre pour lui dire « il y a matière à croire que vous avez été lésée dans vos droits ». Ma jeune cliente, là, elle a été agressée sexuellement pendant 6 ans de temps. Toute son enfance a été brimée. Et elle reçoit une lettre sans même l'avoir demandée. Et là, on lui dit, peut-être que on va faire une enquête. 15 jours plus tard, personne ne la contacte. Et elle reçoit une lettre qui lui dit, non, il n'y a pas eu de lésion de droit. il n'y a pas eu de lésion de droit. Donc, la commission de la protection de la commission
des
droits de la personne, qui est censée protéger ses droits, lui dit, tes droits n'ont ont été...
Nous avons une directrice nationale de la protection de la jeunesse.
Oui.
Il y a la commission qui existe, qui est supposée jouer ce rôle de protéger les enfants. On veut nommer un commissaire ou une commissaire pour avoir un rôle. Ça fait beaucoup de nominations et de structures, mais visiblement, il n'y a pas grand monde qui s'assure de la protection des droits des enfants.
Non, il faut que ce soit d'abord, il faut qu'on ait un commissaire indépendant qui ne doit des comptes à aucun parti politique. Il faut qu'on ait un commissaire qui, la seule personne à qui doit rendre des comptes, c'est à l'enfant qu'il défend. Et c'est ça qu'il nous manque au Québec. Alors, lorsque en tant qu'avocate, je me dis, bon, ben, il faudrait qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans cette famille d'accueil. C'est pas à moi à faire ça. Pourquoi le ministre Carman a pas fait ça? D'emblée, en novembre 2023, quand il apprend qu'il y a un père d'accueil, ben, il demande une enquête. Et là, il nous dit qu'il est tout à fait...
Bouleversé.
Je ne le crois pas. Et ce que je crois pas, c'est que je pense que tout le monde agit, marche sur des œufs quand il s'agit de la DPJ. On veut pas offenser la DPJ. La DPJ est là pour protéger les enfants les plus vulnérables. Il y a des enfants qui ont des parents, mais il y en a qui n'ont pas de parents et qui se retrouvent dans un système comme celui-là et où personne ne les protège. Il est temps d'avoir un commissaire indépendant.
Maître Assouline, merci d'être venu ce matin.
Merci à vous.
Maître Valérie Assouline, qui est avocate en droit de la jeunesse. Et si vous pensez que ce sont que des cas majeurs comme ceux-là qui, disons, font la une, beaucoup d'intervenants, d'intervenantes, qui sont découragés. Parce que quand je dis que la DPJ est brisée, là, c'est de l'intérieur. Il y a des gens qui aimeraient ça faire leur travail et qui se font dire qu'un enfant qui manque l'école à répétition, c'est pas une raison de signalement. Et moi, ça m'assomme parce que il se passe quoi? Réponse, oui, mais il est à la maison en sécurité. Qui vous dit qu'il est en sécurité à la maison? Comment vous le savez? Et je prends toujours l'exemple de la petite de Granby qui était à la maison, mais était loin d'être en sécurité. Et tout ça, c'est du contemporain, là. Ça se passe comme ça aujourd'hui, puis ça va se passer comme ça demain. Ce qui montre que, sérieusement, là, quand le ministre nous dit « je suis touché, ébranlé », ben ça serait peut-être bien qu'il commence à bouger un peu pour s'assurer que les enfants soient mieux protégés.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. Bonne écoute.
Bon, Fred, une tendance TikTok qui en dit long sur les relations entre les hommes et les femmes.
J'ai été ébranlé quand j'ai vu ça. C'est une question qui fait l'objet d'un débat sur les réseaux sociaux. C'est la tendance ours contre homme. Et on pose la question à des femmes. Si vous étiez coincé dans la forêt, seriez-vous plus effrayé de croiser un ours ou un homme? Puis là, je me suis dit, ben, ça doit être moins traumatisant de croiser un homme qu'un ours. Visiblement, je suis naïf parce que c'est pas les réponses les plus populaires. La majorité des vidéos qui circulent, les femmes préféraient croiser un ours qu'un homme.
Would you rather be stuck in a forest with a man or a bear?
Man is scary. With a bear. Depends what man, but probably a bear.
100% a bear, which is like terrifying to say, but
definitely a bear. Some men are very scary out there.
A bear.
Ça, c'est une petite parcelle de ce qu'on peut entendre et dans toutes les langues, c'est à peu près le même discours pour la simple et bonne raison que statistiquement, il y a plus d'hommes que d'ours qui agressent des femmes. C'est ce qu'on avance dans les vidéos. Il y en a qui disaient même si je suis agressé par un ours, au moins les gens vont me croire. J'étais comme vraiment surpris de ce genre de phrase-là. Et quand j'ai entendu ce propos-là, j'avais littéralement la mâchoire à terre. Ça m'a frustré, voire même scandalisé qu'on soit vu comme des prédateurs. C'est comme de prétendre que tous les hommes sont des violeurs. Ça ne devrait pas être cette réponse-là. Et je trouvais ça quand même assez intense parce que des bons gars, il y en a, même si en même temps, on assiste ces temps-ci à une montée d'un discours assez violent et masculiniste. Puis tu peux comprendre pourquoi elles ont peur quand t'entends des phrases comme celle-ci.
Tu laisses pas ta blonde sortir d'un club, tu laisses pas ta blonde aller dans un festival. Une femme va toujours trouver un homme attirant puis elle va toujours le respecter si l'homme est désiré par d'autres femmes.
Fait que quand t'entends des choses comme ça, pose-toi pas trop de questions pourquoi les femmes préféraient un ours. À la lumière de ça, finalement, c'est peut-être ce qu'on préférait. Uh-huh. Et je regardais par rapport à ça le 24 heures qui a parlé à la coordonnatrice de la gestion des ours noirs à la Fonde. Puis on disait qu'au Québec, dans les 100 dernières années, c'est à peu près 6 cas de mortalité par l'ours noir, alors qu'au Canada, c'est une femme ou une fille qui est tuée à tous les deux jours par un homme. Donc, tu sais, statistiquement, il y a ça, mais c'est extrême quand même comme...
Il y a plus d'hommes que d'ours aussi, là. Ce que je veux dire, c'est que...
Aussi, ouais.
T'as moins de chances de croiser un ours en ville aussi.
Mais c'est
si tu te retrouves face à un ours, c'est pas sûr que t'as...
Mais c'est de la tendance sur...
Je comprends le message qu'on veut envoyer sur la violence, là, puis les féminicides, je comprends tout ça. Je trouve juste que la comparaison avec un ours, c'est un peu...
Le raccourci peut-être un peu intense.
Sur une note plus positive, il y a une lueur d'espoir pour Alain ici concernant le dossier de la Société des alcools du Québec.
J'ai une source à l'interne à la SAC.
Pas juste moi, qui dans l'équipe a une succursale qui était ouverte hier?
Absolument, c'est un complot de l'État.
Ouais, Complexe des Jardins était fermé, même affaire, on pouvait pas aller s'abreuver. Et oui, c'est ça, j'ai une source à l'interne et il y a une rencontre dans 1 minute et 40 secondes, Paul, des dirigeants de la SAC qui vont ajuster la fameuse liste des succursales ouvertes. Donc, il y a des chances que ça ne soit pas la même liste qu'hier. On m'a dit qu'on visait entre 35 et 40 succursales d'ouvertes à travers le Québec. Et on m'a dit que la liste devrait être diffusée, mise à jour le plus rapidement possible avant. Hier, c'était à 11h pile. Aujourd'hui, on vise avant 11h le plus rapidement possible, tout dépendant de la disponibilité des gestionnaires qui iront travailler dans les sacs.
Alain, on pourra mesurer ton influence, toi qui es le porteur de ballon dans le dossier.
Que... Les travailleurs de la SAQ vont nous aimer.
Est-ce que Varennes, Boucherville, Complexe des Jardins, Hochelaga,
c'est bon.
Ce sera à suivre.
C'est 23.